cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 4 mai l'an 2000 à Saint-Jodar.
Pratiquement, c'est le dernier cours de métaphysique. Parce qu'après, on me demande de faire l'éthique. Alors, je voudrais, dans un regard un peu réflexif, la philosophie implique ces diverses parties qui toutes sont liées entre elles. La philosophie pratique, on commence par la philosophie pratique. La philosophie de l'art, c'est le premier. L'éthique et la politique. Il y a trois philosophies fondamentales et pratiques. Et ensuite, on gagne la philosophie dite spéculative, philosophie de la nature, philosophie du vivant, philosophie de l'être et la sagesse. Si la philosophie de l'être, elle se termine dans la sagesse. Dès que je découvre l'existence de Dieu et que je découvre que Dieu est le Créateur, je suis en sagesse. Vous voyez ? Bon, tout le reste de la philosophie est de la science. La science implique l'analyse. N'est-ce pas ? Alors, il y a la recherche des lois, science moderne. La recherche des principes. Oui. Les principes de l'art, de la philosophie de l'art, les principes en éthique, et ainsi de suite. Chaque partie de la philosophie. Et ces parties de la philosophie me donnent la structure de mon intelligence. La philosophie n'a pas d'autre but que de me rendre intelligent. Parce que ça ne sert à rien. Il y avait tout le temps à Fribourg un étudiant malin qui, au début des cours, envoyait un questionnaire comme ça à tous les étudiants. Quelle utilité a la philosophie ? Répondez, quelle utilité a la philosophie ? Alors, par hasard, à la place de l'envoyer aux étudiants, ils me l'ont envoyé. Alors j'ai fait un cours exprès là-dessus, que la philosophie, ça ne servait à rien. La dignité de la philosophie, c'est que ça ne sert à rien. Mais c'est ce qui donne tout. On ne se sert pas de la philosophie. Elle est sagesse. Donc elle est contemplative. Mais elle est contemplative et sagesse dans la métaphysique. Tout est ordonné à la métaphysique. Si je ne vois pas la métaphysique, je reste dans une philosophie inachevée. Elle n'est pas sagesse. La sagesse, c'est lorsque je découvre l'existence de l'être suprême, de l'être premier, de Dieu, et que je vois que je suis dépendant de lui par la création, et que je juge tout dans la lumière du Dieu créateur. Je juge tout ce que je suis, toute l'éthique dans la lumière du Dieu créateur. De sorte que ces diverses parties de la philosophie sont organiques. Mon intelligence se développe comme ça, naturellement. C'est très beau, du reste, de voir ça. Naturellement, je ne peux pas faire autrement, je suis une intelligence incarnée. tu vois, une intelligence, une âme, forme d'un corps. Enfin, c'est la grosse question. Toujours les rapports de la sensibilité, de l'expérience et de l'intelligence. Quels sont les rapports? Et parce qu'il y a ces deux pôles, il y a le pôle de l'expérience. Ceci est jugement d'existence. Et Dieu existe. Il est nécessaire qu'il ait un être premier. Qu'il existe un être premier. Vous avez ces deux juments d'existence extrêmes. L'expérience et Dieu. Mais ça se tient. Je ne pourrais pas prouver Dieu uniquement par ma vie intérieure. Je ne peux atteindre l'existence de Dieu que par l'être. Des quantités de philosophes voudraient beaucoup atteindre Dieu par une opération intérieure, par la conscience d'une opération intérieure. Hegel, la connaissance parfaite de mon intelligence, philosophique, me permet d'être identique à Dieu. Je suis la pensée de la pensée. Oui. Le désir que, par la réflexion sur ma connaissance, sur la sagesse, je découvre Dieu. Je ne peux découvrir Dieu que par l'expérience. Parce que Dieu est transcendant. Il me dépasse. Je ne suis pas lié à Dieu d'une façon nécessaire. Dieu m'a créé librement. Donc, le lien qui existe entre moi et Dieu ne me fait pas atteindre Dieu. Il est libre. C'est pour ça que je ne peux l'atteindre que par l'être. Et ça, c'est très important. Et la grandeur d'Aristote, c'est d'avoir saisi cette organisation intérieure de l'intelligence. Tous les autres systèmes philosophiques ont essayé et n'ont pas cette organisation si puissante par la recherche des causalités. Je recherche la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause finale, dans la philosophie pratique et dans la philosophie spéculative. Vous voyez, et c'est pour ça... Et c'est pour ça que si je suis chrétien, ma philosophie n'a pas changé. L'Église n'a pas de philosophie propre. Le Saint-Père l'a dit. Et il a raison. Parce que la création, elle est pour le juste et l'injuste. Elle est même pour le démon, moi. Chien, apparenté au démon, dans l'ordre de l'être. Le démon, c'est un frère dans l'ordre de l'être. C'est une créature dans l'ordre de l'être. Et il y a un lien. C'est pas une créature complètement ignorée, non. C'est un ange déchu. Il a dégringolé. Il est monté très haut. Il s'est regardé. Il a dit, je suis comme Dieu. Lucifer comprend très bien et gueule. Parce que c'est son attitude. il répète la faute de Lucifer. Et la complexité de l'homme au point de vue connaissance. Et l'organisation des différentes parties de la philosophie, c'est quelque chose de très important. Parce que la foi ne modifie en rien la structure de ma connaissance. Si je suis bête, la foi ne me rendra pas intelligent. Elle me fera super intelligent, mais pas intelligent. Et si je suis très intelligent et que je n'ai pas la foi, ça peut se faire. C'est pas mon intelligence qui me donnera la foi. La foi ne modifie pas mon intelligence. Alors, si je mets mon intelligence philosophique, c'est-à-dire mon intelligence dans sa plus grande perfection, au service de la foi, je vais avoir aussi diverses parties de la théologie. Alors, est-ce qu'on va avoir les mêmes? Ça, c'est une question qu'on doit toujours se poser, et vous pouvez vous la poser dès maintenant, parce que vous faites quand même un peu de théologie. Si on est à Fribourg, il n'y avait pas de faculté de philosophie, alors les philosophes étaient ou en faculté de lettres ou en faculté de théologie. Alors, quand des discussions étaient très fortes, très puissantes, et que je trouvais que ce n'était pas tout à fait juste, je faisais des remarques. Alors, on me renvoyait, mais vous n'êtes pas professeur de théologie. Alors, je dis, ce n'est pas être professeur de théologie qui me permet d'être intelligent. Normalement, il faut être intelligent avant d'être professeur de théologie. Il n'aime pas beaucoup que je dise ça. Parce que le philosophe avait le droit pour le fait même de dire au théologien, vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que j'aurais dit, je suis philosophe et je suis croyant. Donc je comprends votre théologie. Et j'ai le droit de dire, ah oh, ça c'est pas juste. Si je vous montre que c'est contraire à la foi, ou c'est contraire à l'intelligence. La théologie ne peut pas supporter des erreurs d'intelligence, des erreurs du côté de la foi et des erreurs du côté de l'intelligence. Alors, est-ce que je vais avoir des divisions de la théologie semblables à celles de la philosophie? Ça, c'est un très gros problème. Et il faudra vous le poser tout le temps. Toute votre vie. Parce que on n'a pas le droit de répéter uniquement. On a le droit, la première année de théologie, de répéter. La première année de philosophie, de répéter. Puis après, on doit entrer dedans. La philosophie regarde ce qui est. La foi regarde ce qui est divin. Votre acte de foi n'adhère pas en premier lieu à votre existence. Vous ne dites pas au point de vue de la foi chrétienne, je suis. La parole de Descartes. Votre foi vous permet de dire Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu et trois personnes. Dieu s'est incarné dans le Christ. Dieu est homme dans le Christ. et il est Dieu. Alors, est-ce que ma foi adhère à la parole de Dieu de diverses façons? Est-ce que la parole de Dieu peut être abordée de diverses façons? J'adhère à la parole de Dieu, toujours. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, il n'y aurait pas de théologie. J'adhère à la parole de Dieu comme un enseignement. Dieu m'enseigne. Et donc, il y a une théologie qui cherche à comprendre cet enseignement de Dieu. Pour moi, la parole de Dieu est amour. Elle est salvatrice. Elle me sanctifie. Vous êtes pur grâce à ma parole, dit Jésus. Donc la parole de Dieu me fait comprendre l'amour de Dieu. Je regarde toute la révélation sous le point de vue de l'amour, théologie mystique. La parole de Dieu s'est donnée dans le devenir d'Abraham à Jésus, de Jésus à son retour. Il y a un devenir, il y a une croissance. Théologie biblique, la croissance dans l'Ancien Testament, la croissance dans le Nouveau Testament, théologie de l'Église. Et donc, au point de vue structure de la théologie, une théologie scientifique qui me donne la vérité, une théologie mystique, une théologie du devenir, de la croissance, théologie biblique et théologie d'Église. Vous voyez, la théologie a cette partie, non, la philosophie a cette partie, et la mystique, la théologie, en a quatre. Vous voyez, en disant ça, j'essaie de reprendre, de nettoyer, parce que, au point de vue moderne, on fait de la théologie des déplacements, des communications, la théologie de tout, tout. La parole de Dieu n'est pas donnée pour ça. Il faut un regard très net sur la parole de Dieu. La parole de Dieu m'est donnée dans un devenir, c'est sûr, dans une histoire. Dieu a tout de suite voulu, avec Abraham, qu'il y ait son peuple. Et Jésus a voulu qu'il y ait l'Église. Donc, il y a le peuple de Dieu, et je dirais, il y a le corps mystique. Et le peuple de Dieu conduit au corps mystique. Et en même temps, le peuple de Dieu et le corps mystique permet d'avoir un lien personnel, direct, avec Jésus, avec Dieu créateur. Dans la lumière de la vérité et dans l'ardeur de l'amour. Bon, alors, je me pose cette question. En philosophie, la métaphysique est ultime. Et en métaphysique, la découverte de la substance est le noyau le plus formel, principe propre selon la forme de ce qui est. Donc, la détermination propre de l'être, c'est la de l'être parfait, de l'être personne, de l'être spirituel, de la substance. Y a-t-il une substance dans la vache ? Y a-t-il une substance dans l'éléphant ? Il y a une nature. Il y a une nature. La différence, c'est que la substance, principe propre de ce qui est en tant qu'être, selon la forme. La nature, principe propre du mouvement, du devenir. Voyez, il y a un rapport très net entre substance et nature, qui est un rapport analogue à celui du devenir et de l'être. Cette recherche de la cause formelle, qui aboutit en métaphysique à la découverte de la substance, se retrouve donc dans toutes les parties de la philosophie. Toutes les parties de la philosophie, il y a une première recherche, causalité formelle. Pas nécessairement première au point de vue génétique, mais analogue à la substance. Je peux donc me poser la question, et ça m'aide à comprendre tous les principes propres de la philosophie pratique, de la philosophie humaine, et tous les principes propres, selon la forme, de la philosophie spéculative. Ça m'aide à comprendre ce qu'est la substance. Il est évident que comparer la nature à la substance, ça m'aide à comprendre la nature et comprendre la substance. Il ne faut pas les confondre. En théologie, je confonds constamment. Je cherche la nature de Dieu, je cherche la substance de Dieu. En théologie, la nature est aussi bien substance, mais pas en philosophie. Vous distinguez ce qui est premier dans l'ordre du mouvement, ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la vie ? L'âme. L'âme est analogue à la substance. Vous voyez, faites un petit tableau très simple. Vous mettez tout ce que vous étudiez dans les différentes parties de la philosophie. Vous mettez être. Vous mettez devenir. Vous mettez substance. Vous mettez nature. Vous pouvez mettre entre deux vie. Quel principe d'un âme ? Bon. Voilà les trois premiers moments très nets. Substance, âme, nature. C'est le principe propre de l'être, le principe propre selon la cause formelle, l'âme de la vie. Le principe propre du devenir, en tant que tel, la nature. Vous avez donc, entre ces trois substances, âme, nature, une analogie. Et vous avez les trois parties de la philosophie spéculative, métaphysique, philosophie de l'âme, du vivant, philosophie de la nature. Pouvons-nous faire la même chose dans la philosophie pratique? Dans la philosophie pratique, vous avez étude de la philosophie de l'art. Quel est l'analogue en philosophie de l'art de la substance? C'est une bonne question. Puisque vous faites la philosophie de l'art, quel est l'analogue? Quel est l'analogue de la substance? Le principe propre selon la forme dans l'activité artistique. C'est l'activité artistique que vous étudiez en philosophie de l'art. Vous dites l'homme sculpte, l'homme peint, l'homme joue de la guitare, la musique, et ainsi de suite. L'homme réalise une maison. Quel est l'analogue? C'est l'idéa. L'idéa est à la philosophie de l'art ce que la substance est à la métaphysique. C'est très important de faire ces parallèles parce que constamment, vous voyez les confusions. Chez Hegel, l'idéa est la substance. En Dieu, l'idéa, c'est Dieu. C'est l'essence de Dieu. C'est la nature de Dieu. Donc, l'idéa, eh bien, dans mon activité artistique, ce qu'est la substance dans l'être. Ça vous aide à comprendre l'importance de l'idéa. Si vous n'avez pas d'idéal, vous n'êtes pas l'artiste, vous tâtonnez, vous cherchez, je cherche, mais je ne vois pas où je vais. L'idéal permet à l'artiste de faire quelque chose, de construire quelque chose. Et il est déterminé. L'idéa détermine. Alors, la question de savoir après, comment j'acquiers l'idéa? Comment je deviens un artiste? Alors, pour Platon, l'idéa, ça vous tombe du ciel. C'est sûr. Il y a des artistes, il y a des gens qui n'ont qu'un sens de l'art. Ils essaieront de faire de l'art. Ils font la bouillabaisse. C'est l'avantage. Et alors, à ce moment-là, vous confondez la substance et les accidents. Alors, vous avez ensuite, en morale, en philosophie morale, quel est l'analogue de la substance? Morale, en morale j'étudie l'opération morale, l'opération humaine, l'opération finalisée vers ma fin. Or, j'ai ma fin, la première fin du moral, la fin dernière, c'est la contemplation de Dieu. Ma fin prochaine, c'est l'ami. Alors, y a-t-il l'analogue de la substance par rapport à l'ami? C'est l'ami, c'est mon secret. En tant qu'ami, mon secret, substantiel. Et donc, l'ami, dans son secret, c'est-à-dire dans son amour par rapport à moi, dans son choix par rapport à moi, est l'analogue à la substance au point de vue moral. Au point de vue politique, quel est l'analogue de la substance? L'analogue de la substance, est-ce la loi? Non. C'est la prudence, la vertu de prudence, la prudence politique du législateur. Celui qui fait les lois, il a l'analogue en lui, au plus intime de lui, dans son cœur, d'un homme politique. Celui qui n'a aucune prudence n'est pas un homme politique. Il conduira les gens n'importe où. Ils font une philosophie sans substance, donc sans stabilité. Et par le fait même, ils ne peuvent pas faire d'ailleurs. L'éthique et la politique, vous voyez, c'est curieux qu'au point de vue éthique, la première stabilité que vous avez, c'est l'amitié, finalité. Et dans l'amitié, l'ami. Le secret qui vous lie à l'ami. Un secret substantiel. Et le secret est une connaissance affective. Et c'est le fruit d'une connaissance affective. Et il est parfaitement réalisé dans, à l'égard de l'ami. Vous avez donc, voyez, dans toute votre philosophie, les analogues à la substance. Et ça vous aide à comprendre, par le fait même, ce qu'est la substance. Vous pouvez le faire pour la substance parce que c'est un principe. La substance est première. Et la philosophie cherche toujours les premiers, les principes. Le premier selon la forme, le premier selon la matière. En métaphysique, il n'y a pas de premier selon la matière. En métaphysique, vous n'avez de premier que dans la cause formelle et que dans la cause finale. Vous n'avez pas de premier dans la cause matérielle. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir une métaphysique matérielle. Et le marxisme qui cherche à avoir une métaphysique n'a pas de métaphysique. Il y a une dialectique. Il y a une dialectique dans l'ordre de la cause matérielle, mais pas de métaphysique, pas de premier. Pas de principe. Et en métaphysique, il n'y a pas de principe au point de vue de la cause efficiente. Il n'y a pas de premier. Vous allez me dire, mais il y a Dieu. Ah oui, mais attention, je parle de la recherche inductive. Vous ne pouvez pas trouver de premier immédiat à part cette expérience, puisque vous êtes toujours dans le devenir. Alors vous trouvez un premier du devenir qui n'est pas un premier dans l'être. Et un premier dans l'être, c'est la substance. Et ça peut vous aider à mieux comprendre ce que c'est la substance, de regarder cet analogue, de regarder ce qu'il y a d'analogique à ça. Vous pourriez vous poser la question par rapport à la théologie. La théologie, y a-t-il un premier dans l'ordre de la causalité formelle? Vous diriez que c'est Dieu. C'est vrai, la théologie regarde comme première substance Dieu. Mais la théologie est une science subalternée à la connaissance des saints. C'est donc une connaissance scientifique imparfaite. Elle présuppose la vision béatifique. Et comme je ne l'ai pas, ça reste imparfait. Et toute ma théologie repose sur la foi en la vision béatifique. Et donc, je n'ai pas d'analogue à la substance en théologie. La seule analogie qui pourrait être, c'est Dieu, mais Dieu, je ne le saisis pas. Je n'ai pas de concept de Dieu. Puisque je n'ai pas de concept de Dieu, je dis Dieu existe dans une affirmation, mais je n'ai pas de concept de Dieu. Si j'avais un concept de Dieu, ce serait l'analogue de la substance. Toute ma théologie serait lumineuse, tandis que toute ma théologie reste dans l'obscurité de la foi. Elle est subalternée, elle est dépendante de la science des saints, dépendante de la science du Christ. En réalité, ça, une théologie chrétienne est en dépendance du Christ, de la science béatifique du Christ, de sa vision béatifique. Mais parce que je n'ai pas de concept de Dieu et que j'ai une connaissance analogique, mais pas directe, je n'ai pas de connaissance directe de Dieu, je ne peux pas avoir de substance, l'analogue de la substance. Je pourrais, une fois que j'ai fait ce parallélisme entre la substance et ce qui est premier dans toutes les parties de la philosophie, vous voyez, je distingue bien, et il faut distinguer bien l'être et le devenir. Il ne faut surtout pas les dire l'être, le devenir vital, l'opération vitale, le devenir physique, non vital. Je peux préciser l'opération artistique et l'opération propre morale. Et dans l'opération artistique, il y a un premier, ce qui montre l'autonomie de l'artiste. Et il y a un premier au point de vue moral, l'autonomie. Du point de vue moral, c'est le secret de l'ami. c'est l'ami en tant que secret. C'est lui qui donne l'autonomie et qui peut comprendre la dépendance. Et au point de vue politique, il n'y a pas d'autonomie nouvelle. Il y a la prudence politique qui me permet d'établir des lois, mais qui reste quelque chose d'imparfait. Parce que, au point de vue politique, il n'y a pas de fin propre. Je ne peux que me disposer à la finalité. Je ne peux que construire ce qui me permettra personnellement d'atteindre ma fin. Il n'y a pas de finalité propre à l'homme politique. L'homme politique ne peut pas trouver dans la politique son bonheur. Il peut que aider les autres. Enlever des obstacles, enlever des fausses routes, empêcher de prendre une fausse direction. Mais il n'y a pas de finalité propre. Le point de vue politique n'ayant pas de finalité propre, il reste dans l'ordre de la disposition. Et l'ordre de la disposition n'est pas le point de vue de la finalité. Et donc, il n'y a pas de finalité propre. Voyez donc par là que la substance, la saisie de la substance, au point de vue métaphysique, est quelque chose d'absolument capital. Vous n'entrez en métaphysique que par la saisie de la substance. S'il n'y a pas la saisie de la substance, il n'y a pas de métaphysique. Il y aura la métaphysique, la substance et l'acte. Les deux principes propres. Le principe propre de la cause finale, de la cause formelle et le principe propre de la cause finale. Il n'y a que deux principes propres en métaphysique. À ce point de vue-là, la métaphysique est plus simple que toutes les autres sciences. Plus simple, beaucoup plus simple. Mais plus difficile parce qu'elle pénètre le plus profondément dans ce qui est. Dans l'homme. Puisque ce qui est comme réalité la plus parfaite dont vous avez l'expérience immédiate, c'est l'homme. Vous n'avez pas d'expérience immédiate de l'ange et vous n'avez pas d'expérience immédiate vis-à-vis de Dieu. Donc la seule réalité où vous avez une expérience immédiate, c'est l'homme. Autant que possible, un homme parfait, un homme saint, mais vous ne pouvez pas avoir d'expérience immédiate en dehors de l'homme. Et c'est toujours l'homme qui est présent en métaphysique. Alors vous voyez, toujours le danger, et c'est très net, c'est très visible au point de vue historique, le danger de ramener ma métaphysique à une anthropologie. Puisque l'objet propre de la métaphysique, c'est l'être, mais l'être dans l'homme. L'être de l'homme. Le to einein anthropo. L'être à l'homme. Parce que c'est l'homme qui me présente l'être concret le plus parfait. l'être au crapaud est très matériel comparativement à l'être à l'homme. L'être au taureau, très matériel comparativement à l'homme. Et si je ne voyais que la cause matérielle, il n'y aurait pas de différence entre l'être pour un marxiste. Il n'y a pas tout, il n'y a que du plus et du moins. Entre l'être au taureau et l'être à l'homme. L'être à un animal très parfait et à l'homme, puisqu'il n'y a pas d'esprit. Alors que pour nous, il y a entre l'animal et l'homme, il y a l'esprit. Et donc, ce n'est pas du plus et du moins, c'est une différence spécifique, totalement nouvelle et radicalement nouvelle. Cette fameuse parole d'Aristote, il ne faut jamais oublier. Tout ce qui est commun à l'homme et à l'animal n'est pas proprement humain. C'est très fort. Et c'est une de ces paroles sur laquelle il faut méditer longuement. Vous voyez ? La métaphysique me permet de saisir ce qu'il y a de propre à l'homme et qui n'est pas propre à l'animal. C'est l'esprit. Mais c'est l'être-esprit. C'est pas l'esprit-être, mais c'est l'être-esprit qui me donne un caractère tout à fait particulier d'une métaphysique. C'est l'être. Mais alors la tentation, puisque c'est vrai, l'expérience la plus parfaite que j'ai, c'est l'homme, c'est de rester dans l'anthropologie, de considérer que l'anthropologie est ce qu'il y a de plus parfait. Non, c'est la métaphysique qui dépasse l'homme et atteint Dieu.